marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Cette ville que vous voyez s'appelle Rome.
L'axe Paris-Rome, le roman français est Rome.
Tel est le malentendu qui existe encore et qui existera toujours entre les Romains et les hôtes de Rome. Ceux-là vivent dans le présent comme ils vivraient dans n'importe quel autre coin de la terre. Ceux-ci sont invariablement attirés, oppressés, écrasés par le passé. Être éternel pour une ville n'est pas seulement un avantage.
Onori al Presidente della Repubblica!
La ville éternelle devenue capitale de la République, et quelle République ? Le contrat de gouvernement qui s'écrit aujourd'hui à Rome entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord est de première importance pour l'avenir de l'Union européenne. Le président de la République, Sergio Mattarella, a expliqué qu'il ne l'enregistrerait pas comme le ferait un simple notaire. Il espère pouvoir en lisser les angles les plus extrêmes. Ce gouvernement italien d'un type inédit, dont on ne sait pas encore comment il va trouver un chef, va fragiliser la ligne Lyon-Turin. Il ouvrira une route entre Rome et Moscou. Quant à l'axe Rome-Paris, il le menace d'une fracture. L'axe politique Rome-Paris, il date au moins de l'époque où la France a pressenti en Rome la capitale que se choisiraient les Italiens. Pour le voir s'esquisser, il faut donc remonter à l'époque de Bonaparte. Et ce qui va nous importer aujourd'hui, c'est que cet axe politique a été précédé, accompagné d'un axe littéraire. Longtemps, Rome avait été intégrée dans le grand tour que les jeunes gens privilégiés accomplissaient dans toute l'Italie afin de s'initier aux arts et à la vie. Ils en tiraient des descriptions quelque peu stéréotypées. On les voyait contempler les ruines de l'Antiquité, partagées entre la louange ou la nostalgie. Et soudain, l'occupation française a fait vaciller sur ses bases le régime pontifical immobile. La possibilité d'une Rome moderne est apparue. Et c'est à ce moment, précisément en 1807, que Madame de Staël inventa le roman romain, proclamant la possibilité d'aimer dans la ville. À l'époque, ces héros appartenaient à la haute société, étaient livrés à la passion. Aujourd'hui, le roman contemporain se déroule dans d'autres couches sociales. La sexualité est plus débridée. Le peuple romain, celui qui secoue les urnes, est davantage présent. En tout cas, comme déjà chez Madame de Staël, la Rome catholique n'est généralement plus qu'un arrière-plan lointain. A-t-on noté d'ailleurs que pour la première fois, le Vatican n'a quasi pas joué de rôle dans les récentes élections italiennes.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Donatien Gros, bonjour.
Bonjour.
Néron en Occident, vous aviez il y a peu publié un livre sur les aventures posthumes de ce personnage transgressif. Et maintenant, aux éditions des Belles Lettres, un livre encore plus gros, le roman français de Rome, le roman romain. Alors, vous avez des activités d'homme du passé et d'homme de la transgression contemporaine aussi. Qu'est-ce que vous faites d'autre dans la vie que d'écrire ces livres, Donatien Gros ? C'est difficile à définir.
Disons que je vais plutôt répondre en termes de méthode. Je pense, et c'est un peu un lieu commun, mais je pense qu'on ne peut pas comprendre... non pas simplement le présent sans le passé, ni le passé sans le présent, qui là vraiment est le lieu commun absolu, mais on ne peut pas comprendre les points saillants du présent et les points saillants du passé sans ce double jeu. Le livre dont vous parlez, le roman romain, j'en avais écrit une première mouture, et puis j'ai beaucoup eu la chance de beaucoup parler avec l'auteur Pierre Guillotat, et dont qui a constamment réinventé ce rapport entre classique et moderne, entre la grande épopée et le sens des enjeux d'aujourd'hui. Et j'ai tout jeté. Et j'ai écrit quelque chose de complètement différent, qui est le texte publié aux Belles Lettres, parce que justement, ce rapport à un auteur, aujourd'hui, qui peut dire, à partir de lui-même, là où est l'enjeu, permet de regarder vers le passé. Donc c'est pas simplement lire le passé à partir du présent, le présent à partir du passé, mais c'est faire dialoguer les points saillants.
Alors les romanciers qui vont inventer le roman, disent « je invente du neuf ». Auparavant, le grand tour jetait sur les routes quelques individus d'élite, généralement des jeunes hommes lettrés qui faisaient leurs premiers pas en arpentant l'antiquité romaine.
Ma première image de Rome a été celle-ci. Ces vieux blocs de pierre usés par le temps qui se dressent en plein champ, juste à la sortie du pays. Plus tard, à l'école, nos professeurs nous donnèrent sur Rome d'autres précisions intéressantes.
Et voici le Rubicon, le fleuve que Jules César traversa en s'exclamant « Allez à Jacta Est ! Ôtez vos chaussures ! » !»«
Ôtez vos chaussures, vous avez entendu ?»
Et traversons-le ensemble. Allez à Jacta Est. À Rome !
À Rome !
Quiconque s'occupe uniquement de l'étude de l'Antiquité et des arts, ou quiconque n'a plus de lien dans la vie, doit venir demeurer à Rome. Là, il trouvera pour société une terre qui nourrira ses réflexions et qui occupera son cœur, des promenades qui lui diront toujours quelque chose. La pierre qu'il foulera aux pieds lui parlera, la poussière que le vent élèvera sous ses pas renfermera quelque grandeur humaine.
Après Fellini, Chateaubriand, je lis sur les pierres les regrets qu'un vivant donnait à un mort. Mais ce vivant est mort à son tour, et moi, barbare des Gaules, je viens après 2000 ans. La louange des ruines, la munificence des ruines, ça c'est une caractéristique du grand tour.
Absolument.
Classique.
Absolument. C'est la volonté qu'ont, dans la continuité des classiques, de la lignée des classiques selon lesquels le passé est le présent exactement identique, et c'est l'éternel retour au même qui ensuite inspirera une certaine pensée du 19e siècle, comme le temps continue, comme le temps est quasiment immobile, ce n'est qu'une variation, voir les ruines du passé, c'est voir les ruines de notre futur. Et donc s'inspirer du passé, c'est comprendre notre présent. L'un des textes fondamentaux de ce rapport à Rome, c'est celui de Téluquin, qui dans la Farsale présente Jules César face aux ruines de Troie, et Jules César dit, phrase qui a marqué tout le grand tour, « Etiam periere ruinae », même les ruines ont péri. Et donc cette capacité d'invocation de la ruine, de cet endroit où était César, où est mort Cicéron, devient le fondement de la pensée, qu'elle soit personnelle ou politique.
La châtelaine de Coppet, je veux dire la belle Germaine, je veux dire Madame de Staël, protestante assez indifférente au passé catholique de Rome, à la recherche du neuf, va renverser ce schéma traditionnel. Elle est capable d'ailleurs de s'identifier à une autre nation classienne, peut-être parce qu'elle est suisse, elle est capable de s'identifier à l'Allemagne, elle est capable de s'identifier à l'Italie, et elle publie en 1807, peu de temps après que Chateaubriand a écrit ce texte classique, un roman neuf, Corinne ou l'Italie.
Corinne est un roman qui invente de nouvelles règles, à tous égards. D'abord parce que c'est un roman autobiographique, c'est un des premiers romans autobiographiques. Corinne est le double de Madame de Staël, et on a pu s'amuser entre historiens de la littérature à suivre dans son histoire d'amour avec Lord Nelville, les nombreuses histoires d'amour du temps de Madame de Staël, mais c'est aussi, comme toujours, une imbrication de l'élément personnel, biographique, avec un élément politique. Parce que dans la suite de la Révolution, qui inventa les différentes républiques italiennes, et du gouvernement du consulat puis de l'Empire, elle invente l'Italie. C'est-à-dire, elle invente le fait que Rome soit la capitale d'une nation qui n'existe pas, qui sera l'Italie. N'oublions pas que Rome, en 1800, c'est 80 000 habitants, ce ne sont que des ruines, c'est tout petit, c'est un village, et elle, dans cette scène qui est magnifique, invente une histoire de l'art italienne qui ne serait pas une histoire de l'art des différentes cités-états qui faisaient l'Italie, mais était une histoire de l'art de l'italienne dont l'unité serait à Rome.
Donc vous êtes en train de dire que c'est en français qu'on a commencé à dire très clairement que Rome était appelée à devenir la capitale d'un pays qui allait nécessairement surgir.
C'est la fameuse phrase de Napoléon Bonaparte, disant que Rome sera la capitale que se donneront les Italiens. Mais rappelons-nous que les cités-états italiennes, qui étaient le cœur de l'Italie jusqu'à la Révolution, et avaient chacune leur identité locale, chacune leur langue, chacune leur identité politique, chacune leur école d'art, chacune leur école de création. Les Français arrivent avec leur grand désir de nation, qui s'était déjà fait court au XVIIIe siècle, et disent « ceci sera une nation ». Et en disant « ceci sera une nation », ils poussent la bourgeoisie contre les aristocrates. Donc il crée cette classe sociale nouvelle qui va ensuite gouverner l'Italie.
Alors c'est la France qui bouscule le pouvoir pontifical. On se souvient du pape captif de Napoléon l'Empereur à Fontainebleau. C'est la France aussi qui maintient le pouvoir pontifical sous Napoléon III, avant finalement de l'abandonner à son sort. Le pouvoir pontifical n'a plus de responsabilité étatique, n'a en tout cas plus de territoire quand un auteur sur lequel vous écrivez beaucoup, que vous aimez beaucoup, va à Rome, c'est Émile Zola. Alors il imagine un abbé travaillé par les tiraillements de la chair, hein, bien sûr, et qui voit s'échanger des balles entre le cardinal Boccanera et le cardinal Sanguinetti, chacun représentant une tendance de l'Église. Et ils s'échangent des balles, enfin, et aussi des figues empoisonnées.
Rome est un roman absolument extraordinaire. C'est un des romans du dernier Zola, il date de 1896. Il ne faut pas oublier que Zola a été mis à l'index. Donc Zola va à Rome, évidemment ne rencontre pas le pape. Le fameux ambassadeur de France à Rome, qui est une des figures les plus importantes de la diplomatie française de la fin du 19e et du début du 20e siècle, Camille Barrère, fait tout pour qu'il rencontre le pape, il ne rencontre pas le pape. Il est là, il tient un journal et il présente cet abbé qui finira par se défroquer, qui va de Lourdes, de Bernadette Soubirous à Paris, troisième volume, Rome étant le volume au milieu, et qui se trouve perdu alors qu'il croit, lui, dans la religion. Il croit dans la modernité de cette religion sociale qui va toucher toutes les couches de la société dans ce monde romain. Et ça donne des pages incroyables. La grande tirade du cardinal Boccanera qui dit à la fin « Si je dois être le prélat de la mort de l'Église alors que Dieu me donne ma mission », cela donne une scène d'un baroque incroyable où le neveu du cardinal Boccanera, empoisonné, meurt, et sa cousine, dont il était amoureux, avec laquelle il n'a jamais voulu consommer l'acte de chair, se jette sur lui, et ils s'unissent nus, en mourant, et meurent d'amour.
Si vous voulez bien, on va se rhabiller, parce que Zola n'a pas vu le nœud dans l'histoire pontificale qui se produit à chaque élection d'un nouveau pontife.
À vous, Rome.
Ici, Rome. Depuis ce matin, la ville éternelle vit à l'heure du conclave. C'est d'ailleurs dans le sillage de la voiture d'un cardinal attardé que je suis arrivé à l'heure à Saint-Pierre, la voiture du prélat doublant en quatrième position et brûlant les feux rouges avec la complicité empressée des carabinieri. Les 52 cardinaux du Sacré Collège font leur entrée dans la nef de la basilique où se trouve Georges Zottola.
Voici les cardinaux défilant majestueusement deux par deux vers l'autel de la cathèdre. Ils sont vêtus d'une robe violette, d'une cape et d'un rocher rouge et accompagnés de leur secrétaire.
Modèle numéro 1. Patience, en satin noir, un modèle classique destiné au service. Les petites bottes sont en cuir édin de deux tons, noir et marine, pour climat très rigoureux. Les vêtements religieux ont subi une certaine évolution. Soutane, chasuble, étole sont désormais réalisés dans des coloris plus vifs et exécutés dans des tissus modernes qui ne nécessitent aucun repassage, ce qui est incontestablement un avantage incomparable.
Fellini Roba de Rochef, alors vous qui avez été proche d'Azedine Alaïa, vous serez content de savoir que le préfet pour la Congrégation de la Culture a réuni les gens de mode la semaine dernière. On a vu Daina Vreeland au premier rang, et puis un garçon en culotte courte, vous voyez, le genre Stromae, enfin dans le... Zola, il s'intéresse aussi au milieu politique républicain. Parce qu'elle arrive au milieu politique italien, pardon, puisque la monarchie est installée maintenant au Quirinal.
Tout à fait. La monarchie, après avoir eu sa première capitale à Florence, s'installe après le départ des Français à Rome. Et il y a surtout ce grand rêve de l'Italie unie, de Rome dont la population va passer, il faut se le représenter, en 1870 de 200 000 habitants à 1 million en 35 sous le fascisme, est à 2 millions en 60. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on pense à Rome, il faut penser à ce nouveau pays, cette nouvelle langue, cette nouvelle capitale, des quartiers entiers qui sont bâtis. Les aristocrates vendent leur territoire à prix d'or pour dans la ville. Et c'est un des plus beaux passages d'ailleurs de la Rome de Zola, qui est ces nouveaux quartiers construit pour une nouvelle capitale, pour un nouveau pays, qui sont vides.
Et le Quirinal, le siège de la monarchie, concurrence le Vatican. André Gide, plus tard, dans les caves du Vatican, a décrit la même période que Zola. On est sous Léon XIII. Et imaginez que le pape Léon XIII, qui venait de publier une encyclique recommandant le ralliement aux catholiques monarchistes français, avait été enlevé, sans doute sur ordre du Quirinal, et qu'on avait substitué un faux pape à Léon XIII, devenu captif.
Au château de Pezac, près de Pau, la scène se déroule entre la comtesse de Saint-Prix et Protos, déguisé en chanoine.
Je fais appel à votre intelligence, comtesse, et vous invite à considérer le désarroi où, chrétien, la disparition de notre chef spirituel nous a plongé. Plus de pape est affreux, madame. Mais un faux pape est plus affreux encore, car pour dissimuler son crime, que dis-je, pour inviter l'Église à se démanteler et à se livrer elle-même, la loge a installé sur le trône pontifical en place de Léon XIII, je ne sais quel suppôt du Quirinal, quel mannequin à l'image de leur sainte victime, quel imposteur! Le premier acte du faux pape fut cette encyclique trop fameuse, l'encyclique à la France, dont le cœur de tout Français digne de ce nom saigne encore, oui. Je sais, madame, combien votre grand cœur de comtesse a souffert d'entendre la Sainte Église rogner la sainte cause de la royauté. Le Vatican, j'ai dit, applaudir à la République. Hélas, rassurez-vous, madame la comtesse, mais songez à ce que le Saint-Père captif a souffert, entendant ce suppôt imposteur se proclamer républicain.
Une représentation des caves du Vatican d'André Gide par la Comédie française. Je tiens à dire que celle qui halète et sanglote, c'est Béatrice Bretti, la comtesse de Douairière. C'est pas n'importe qui, hein, c'est la compagne de Georges Mandel. Et puis, en face d'elle, un escroc, Jean Meyer, Protos, qui va proposer quoi au milieu catholique interloqué dans ces années 1890?
Qui propose
Il y a une souscription,
pour libérer le pape, pour libérer le pape rançonné, pour venir soutenir cette cause de l'Église. Ce qui est assez extraordinaire avec Gide est protestant. Il y a une partie de l'histoire du roman romain qui est une histoire protestante. Madame de Staël elle-même était protestante. L'un des référents de Gide est un roman nommé Charles Didier, qui part en 1833, qui est un roman qui se passe justement dans la Rome souterraine où on envisage d'enlever le pape. Donc il y a tout ce récit protestant, c'est-à-dire moderne, c'est-à-dire luttant contre la continuité du catholicisme romain, qui vient en quelque sorte aiguiser la perspective sur Rome, sur une Rome moderne.
Dans ces années-là, Claude Debussy concourait pour le prix de Rome, et voici une fugue inachevée pour le concours Noriko Ogawa.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Donatien Gros publie un livre aux éditions des Belles Lettres, l'histoire du roman romain, le roman français, et Rome, l'axe, Paris, Rome, qui passe par la Villa Médicis.
L'Académie de France à Rome, qui est située dans la Villa Médicis, l'un des plus beaux palais romains, est une institution qui s'est installée, qui existait avant au palais Mancini sur le Corso, mais qui s'est installée à la Villa, qui surplombe Rome à la Trinité des Monts, à l'époque de Napoléon, au début du XIXe siècle. À partir de ce moment-là, c'est un lieu essentiellement consacré à la musique et à la peinture. Berlioz, Ingres en est le directeur, puis jusqu'à encore plus proche de nous, Balthus. Et à partir de la réforme qui a lieu au début des années 70, elle accueille les écrivains. Et donc les écrivains commencent à séjourner dans cet endroit où ils sont boursiers, où ils sont invités à passer du temps, à travailler à un projet d'écriture, et ils le font encore aujourd'hui.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que les écrivains sont souvent grinçants. Voici une lecture de Dominique Fernandez. Je ne pense pas qu'il soit passé comme pensionnaire par la Villa Médicis, mais enfin, un peu partout, il est passé en Italie, il avait un sourire moqueur.
Comme Rome tout entière, dont elle est le microcosme, la Villa Médicis, souverainement belle, est en même temps souverainement ennuyeuse. Certes, la Villa Médicis n'est pas une ruine, mais la poussière du temps ne la nimbe pas moins de sa lumière dorée et funèbre. La vie reste à la porte de l'imposante bâtisse et n'y pénètre que très rarement. La villa est une maison de détention et une succursale chic de Regina Celli. La façade qui donne sur la rue le dit assez éloquemment. Porte d'entrée minuscule par rapport à la surface des murs, fenêtres rares et étroites. La villa ne s'ouvre qu'avec répugnance au monde extérieur.
Mais comment dans le roman romain peut-on encore écrire sur la Villa Médicis qui était usée à force d'être montrée?
La Villa Médicis n'est pas si usée à force d'être montrée, parce que justement, comme le dit Dominique Fernandez, elle n'a pas été tellement montrée. Elle est un lieu de séjour. Elle est encore aujourd'hui, quand on y va, un lieu assez intime, assez vivant. Et c'est surtout le cœur de la France à Rome. Et c'est là aussi, c'est pour ça que Dominique Fernandez dans ce texte, mais surtout plus tard Hervé Guibert, vont pouvoir s'y confronter, parce que c'est comme l'incarnation de ce qu'est être français à Rome. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les questions qui se posent sur la villa, c'est le cœur du sujet, parce que les Romains, en particulier les Romains historiques, les Romains qui ont un certain âge, ont une passion pour la France. On pense au grand critique Pietro Citati, le grand critique romain. Et il y a beaucoup de princesses romaines encore aujourd'hui, je ne citerai pas de nom, qui sont françaises. Et il y a cette fascination, mais en même temps, ce que les Romains aiment de la France ne peut pas être moderne. Et donc, pour un Français moderne, venir à la villa, c'est se confronter à la fois à la villa elle-même, aux Français qui l'ont précédée, et au regard qu'ont les Romains sur la villa.
Alors, le plus moderne des auteurs dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un peu le symétrique, beaucoup plus tard, de Madame de Staël, c'est Hervé Guibert. Vous avez consacré de longues pages à son livre Incognito. Il est pensionnaire de la villa, il préfère l'île d'Elbe où il passe beaucoup de temps avec ses amis et compagnons. Il vient d'apprendre, avant d'arriver à Rome, qu'il est séropositif. Et « je ne veux pas écrire, dit-il, n'importe quoi avant de mourir ».
Je trouve que l'Incognito est un texte absolument magnifique et très particulièrement pensé dans son rapport à Rome. Puisque Hervé Guibert arrive au moment où Rome est une ville de 2 millions d'habitants, donc c'est plus une petite ville, est une ville qui a eu tout un nouvel urbanisme, est une ville qui est à la fois contemporaine et qui en même temps est cette ville où il y a les thermes de Caracalla, le Forum, le Capitole, etc. Et donc il va radicaliser cette position moderne des Français qui consiste à pousser Rome dans la modernité, puisque le roman est le genre de la modernité, en faisant un roman autobiographique d'une vie strictement contemporaine. Donc on va avoir, il va dans les petits restaurants, il va dans des clubs, le nom Incognito, évidemment c'est un jeu sur cette ville où il est incognito, mais c'est aussi le nom d'un club où il va. Il va raconter aussi comment il s'ennuie, parce qu'il n'y a vraiment rien à faire, et à un tel point il veut tellement se moquer et rendre moderne et rendre et faire perdre son éclat, son aura à Rome, qu'il renomme l'Académie de France à Rome, Académie espagnole.
Mais alors cette Villa Médicis qu'il décrit lui aussi, c'est le seul élément de pittoresque, c'est une sorte de vignette, l'essentiel de la page étant occupé à raconter comment il vit à Rome comme il vivrait ailleurs, recherchant des partenaires homosexuels et dépeignant Rome comme une ville comme les autres.
Tout à fait. Et d'ailleurs, même l'Académie, les grands passages sur la Villa Médicis sont consacrés au fait que les lave-linges ne marchent pas très très bien. Donc il y a aussi une volonté très nette de faire perdre à cette ville, à cette ville et à ce lieu dans cette ville, son aura. Mais c'est ça qui est particulièrement fort. C'est-à-dire qu'on pense à Rome comme étant désormais, à la fin de ce parcours, une ville comme les autres.
Et qu'il est plus flatteuse.
Qu'est-ce que tu vois maintenant ?
Mais regardez donc, rien que des hippies repoussants de saleté, des étudiants qui ne veulent rien étudier, des travestis, des drogués de toutes les races. Parce que là, tu oublies que ton film va aller à l'étranger. Et si tu y mets encore et toujours tes invertis, tes putains, tes cochonneries habituelles, de quoi aura-t-elle l'air notre Rome bien-aimé ?
Monsieur Fellini, il est temps que je vous parle. Je voudrais savoir si ce film d'auteur que vous faites de Rome aura un point de vue objectif et se référera aux problèmes extrêmement graves que résout la société actuelle et aux manifestations des étudiants.
Bien entendu, nous ne pensons pas uniquement à ceux de l'enseignement.
Le monde du travail, par exemple, les horaires, les cadences, la vie en usine, les paysans et bien d'autres problèmes.
Oui, nous, on en a marre de toujours voir la Rome souillon, grassouillette et maternelle.
Oui, d'accord.
C'est-à-dire les habituels
clichés. Parce que Rome n'est pas que ça.
Je vois qu'on fait bien seulement ce qu'on sent.
Voilà les casse-croûtes.
C'était le dernier extrait de Fellini, Roma. Il faut dire que le roman français, qui est un roman politique, il a beaucoup apporté à la représentation du peuple romain.
Les Français ont pensé, et dès Charles Dillier au XIXe siècle, ont pensé Rome avec son peuple. Et en dehors du fantasme du peuple romain, parce qu'il y a en Italie ce fantasme d'un peuple romain, d'un peuple latin, qui va mener au premier grand poème dans les années 1860 sur Rome, qui est aussi ce qui inspirera Pasolini d'ailleurs. Mais les Français pensent le peuple romain comme un peuple, pas seulement pittoresque, archaïque, mais déjà comme le peuple d'une nouvelle capitale, d'une capitale qui est, rappelons-le, la seule ville à laquelle Paris est jumelée. Et c'est vrai, c'est-à-dire que c'est penser par Rome une modernité. Mais une modernité qui ne soit pas une modernité radicale, la modernité des avant-gardes, qui soit la modernité synthétique, c'est-à-dire une modernité qui intègre le passé plutôt que le refuser. Rappelons-nous qu'en 1917, dans ce qui est maintenant l'Hôtel de Russie, un des plus beaux hôtels de Rome, Picasso peignait Parade, alors dans la compagnie de Diaghilev, qui est le rideau de Parade, qui est un de ses chefs-d'œuvre et qui synthétise le moderne et le classique.
Mais cette Rome d'Emmanuel Guibert ou de ses auteurs les plus modernes et les plus habités par la passion, comme l'était la Rome de Madame de Staël, mais par des amours ordinaires. Les invertis, disait le personnage de Fellini.
Mais... Je vous laisse la responsabilité de considérer que les invertis sont des amours ordinaires, mais cela étant dit, je pense que dans ces amours dont aucun n'est ordinaire, en réalité, le geste de Guibert, puisque c'est de lui qu'on parle, n'est pas un geste de dire c'est normal, c'est un geste de coup de force. Et quand on voit les nouveaux textes qui ont paru récemment dans ces 10 dernières années, il y a eu beaucoup de romans consacrés à Rome, il y a un retour à Rome. Mais je pense que cette histoire, et c'est ce que j'ai voulu saisir avec ce livre, intègre tout. Elle intègre toute cette geste dont nous sommes les héritiers. Et ce que je vous disais à propos de Pierre Guillotat au début de notre conversation, c'est-à-dire sentir l'enjeu là où il est, on le trouve aujourd'hui en étant conscient de cette histoire. Et puisqu'après tout, votre émission est la grande émission, ou l'une des grandes émissions de l'histoire, c'est là...
Je vous laisse la responsabilité des flatteries.
Mais je la prends avec plaisir. Vous savez ma joie d'être là. Donc, c'est la responsabilité de notre rapport face à l'histoire. Et peut-être, on peut se souvenir de la fameuse phrase, toujours dans Fellini Roma, que dit Gore Vidal...
Oh, je sens qu'on va vers la fin, là.
Que dit Gore Vidal...
Qu'est-ce qui se passe dans cette scène finale de Fellini?
Les journalistes s'approchent, l'équipe s'éloigne, et on va voir... Gore Vidal arrive, le grand écrivain américain, et on lui dit, Monsieur Vidal, pourquoi êtes-vous venu à Rome? Parce qu'il vivait, il a vécu à Rome pendant 40 ans. Il répond, Roma è il più bello posto del mondo per vedere se tutto finisce. Rome est le plus beau lieu du monde pour voir si tout finit, et non pas que tout finit.
Merci à vous, Donatien Gros. Le roman français, Généalogie d'un genre, aux éditions Les Belles Lettres. Cette émission a été préparée par Ilinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard. Ludovic Asselot à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation. Chez vous, Mathieu Vidard, voyage,
oui,
voyage.
Oui, avec une primatologue, entre autres italienne, qui était très contente d'entendre parler italien il y a un instant chez vous, Jean. Mais elles seront trois primatologues pour parler des grands singes dans un instant.